Histoire d'archives sur Fréquence Mistral de Digne-les-Bains. Bonjour Laure.
Bonjour Jean-Marc.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler d'une personnalité un peu singulière. Il s'agit de Mélanie Hermite.
Oui, c'est une inconnue, mais qui grâce aux archives, va pouvoir la redécouvrir. Alors, je me rapproche du micro, excusez-moi. En fait, Mélanie Hermite, on a découvert son existence parce que les archives départementales ont acheté une archive privée, ça nous arrive de temps en temps, à savoir une lettre du secrétaire perpétuel de l'Académie française qui a écrit en 1825 au préfet des Basses-Alpes pour se renseigner sur cette fameuse demoiselle Hermite. Alors pourquoi des renseignements sur elle? Parce que l'Académie française décernait, et décerne toujours d'ailleurs des prix chaque année, et on est en 1825, on décernait à l'époque le prix Montyon, qui était un prix de vertu, très exactement un prix décerné en faveur d'un Français pauvre qui aura fait l'action la plus vertueuse. Voilà, on est vraiment évidemment dans une phraséologie qui nous est devenue un petit peu étrangère, mais qui florbonne son 19e siècle. Et alors cette demoiselle Hermite était effectivement... avait vraiment toutes les caractéristiques pour avoir ce prix. Elle a eu le second prix, en réalité, le prix qui de 3000 francs, ce qui est énorme pour l'époque, parce que son père et elle ont accueilli une jeune sourde et muette, l'ont accueillie chez eux, hein, parce qu'évidemment, famille indigente, ne pouvant assurer l'existence de cette jeune fille. Et elle s'est mise en tête de lui apprendre à lire et écrire. Et elle y est arrivée en moins de 18 mois, avec en plus, j'en parlerai, le fait qu'elle, Mélanie Hermite, était d'une santé fragile. Donc, non seulement elle se dévoue pour son intérieur domestique, mais en plus, elle est fréquemment malade. Mais malgré ça, elle arrive à donner des éléments de langage, véritablement écrit, évidemment, à cette jeune fille qui s'appelait Rose Sylve. Voilà, et ça a vraiment attiré mon attention, ce courrier, qui était vraiment un courrier isolé. Et du coup, j'ai contacté l'Institut de France, qui a conservé les archives, évidemment, de tous leurs prix. Et ils m'ont envoyé le fond du dossier, enfin la copie, que j'ai pris grand plaisir à lire, parce que ce sont plein de pièces envoyées par le curé, le maire, le juge de paix, qui abondent évidemment en faveur de Mélanie Hermite et qui effectivement recevra finalement ce prix. Voilà. Donc je peux vous lire déjà quelques extraits pour vous donner un peu la teneur un petit peu de ce dossier. Alors, il faut que je retrouve. Voilà. Donc déjà le point de départ, alors c'est le juge de paix, hein, du canton de Seigne, parce que la demoiselle Hermite habitait Saint-Martin, qui est à côté de Seigne. Lorsque la demoiselle Hermite eut gardé et suivi Rose Sylve pendant quelque temps, elle lui parut douée de vivacité et avoir de l'intelligence. Elle éprouva de lui donner quelques notions d'un Dieu créateur et rédempteur et des devoirs d'un chrétien. Ayant eu la satisfaction de reconnaître que ses soins n'avaient pas été infructueux, elle n'en eut pris pour d'autres objets et a consacré tous ces moments que sa santé lui a permis à l'instruction de cette jeune fille. Dans l'espace d'environ 18 mois, elle lui a enseigné à lire, à écrire assez intelligiblement ce qu'elle a lu, ce qu'elle veut demander et ses réponses aux questions qu'on lui fait par écrit ou par signe. Voilà, on est vraiment... cette jeune fille, elle est vertueuse à différents égards. Hein. Déjà, elle est d'une famille honorable, mais désargentée. Son père est l'ancien seigneur, entre guillemets, du coin, mais un propriétaire terrien. Mais les vicissitudes de la vie ont fait qu'évidemment, ils ne vivent plus du tout sur le même pied. Elle est de santé fragile, elle est pétrie de charité chrétienne, elle veut donner de l'éducation à cette jeune fille, c'est l'infortune non seulement pour elle et pour la jeune fille, elle est très dévouée, déjà pour sa famille et Rose Sylve, et surtout, et ça c'est vraiment peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'elle invente un procédé, parce qu'elle est parfaitement ignorante de ce qui se passe en même temps, hein, dans la même période, de tous les développements. Il y a le braille, alors j'ai pas revérifié les dates, hein, mais on est vraiment dans cette période où on essaye de trouver des procédés pour aider les gens qui sont en situation de handicap, même si on parle pas comme ça à l'époque, mais pour arriver à affronter la vie et à vivre en autonomie. Et en fait, elle trouve un procédé par elle-même. Alors, Le procédé est décrit, hein, notamment par, je suppose, un médecin qui est venu lui rendre visite pour essayer de comprendre comment elle avait réussi à apprendre. Parce que je pense que les gens sont un peu incrédules. Ils viennent voir pour s'assurer. D'abord, est-ce que Rossive était vraiment sourde et muette? A priori, oui. Et de naissance. Et puis, comment a-t-elle pu se débrouiller? Alors, a priori, ça, je vais vous lire aussi un extrait. Alors, la méthode employée par la demoiselle Hermite est toute renfermée dans les divers mouvements des mains et le jeu des doigts. Quelques détails ont déjà été donnés à l'académie par le moyen, par le moyen d'une mécanique et le recours des caractères en cuivre. Elle s'en fait en faveur de son élève une sorte d'alphabet, de syllabaire et même de grammaire. Chaque lettre a son signe particulier. Les mots en découlent avec désignation de genre, de nombre et de temps pour les verbes. Elle a imaginé des signes composés qui expriment des mots entiers par un seul signe, allégeant beaucoup le travail. Bon, après, il y a des parties qui sont illisibles. Alors, concrètement, ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'en fait, elle lui a vraiment appris l'alphabet. Voilà. Et pas un alphabet de substitution. Elle a créé des lettres en cuivre, donc de l'alphabet. Et par un jeu de mimique, en fait, elle a décomposé chaque geste en chaque lettre. Ce qui fait que quand elle parle, en fait, elle décompose l'orthographe du mot. Ça devait être un truc assez incroyable hein, à regarder. Et donc là, je vais vous lire justement le docteur en médecine qui explicite un petit peu le procédé. Alors, d'abord, c'est intéressant. Je sous-signé, docteur en médecine de la faculté de Montpellier, résident à la ville de Seine. Basal déclare et certifie que mademoiselle Thérèse Mélanie Hermite, dans la commune de Saint-Martin, âgée de 26 ans, d'une imagination ardente et d'un cœur éminemment porté au bien, née et élevée au milieu d'une famille respectable, dont les plus beaux titres sont des mœurs irréprochables, accompagnée de tout ce que l'infortune entraîne à sa suite, donne depuis 2 ans environ à la nommée Rossilve, jeune paysanne âgée de 13 ans, que la nature avait isolée du commerce social par l'état de surdité originaire bien reconnu chez elle, des leçons propres à suppléer dans cet être malheureux à l'absence des facultés communes des hommes. Son zèle et son dévouement ont été et sont tels que, dirigée par la plus pieuse charité, elle a oublié tout ce que pouvait perdre et sa santé et ses affaires domestiques pour se livrer entièrement à l'éducation principalement religieuse d'une élève à l'égard de laquelle, au contraire, tout est devenu aujourd'hui méthodique et classé suivant les règles les mieux établies. On voit que quand même, hein, ce qui compte, c'est quand même de donner avant tout des éléments de moralité chrétienne. Hein, ça, c'est... Après, qu'elle sache se débrouiller toute seule, tout ça, c'est moins ce qu'on recherche. Alors, attendez, j'essaie juste de retrouver l'endroit où j'ai sélectionné vraiment les... Voilà. Voilà, parce que j'ai un peu mélangé mes pages. Alors, donc mademoiselle Hermite lui fit comprendre qu'on lui rendait également la pensée par l'écriture, qui est l'assemblage d'un certain nombre de caractères rangés de telle ou telle façon, auxquels on faisait rendre tel ou tel son par le moyen de la parole, et qu'elle se proposait de la faire parvenir à ce point, non en faisant rendre des sons à des caractères, puisqu'elle ne peut pas évidemment, mais en suppléant par des signes auxquels elle donnerait une force ou valeur proportionnée aux différents sons présumés. Alors là, c'est intéressant, c'est le commentaire après. La muette, alors, laissa apercevoir à son institutrice qu'elle sentait de grandes difficultés pour pouvoir arriver à ce degré de connaissance et lui témoigna néanmoins sa reconnaissance sur les promesses qu'elle lui faisait. Donc ensuite, on rentre un peu dans le vif de la méthode. Mademoiselle Hermite jugea pour lors que la muette ne se dissimulait pas ni les difficultés ni les avantages et elle lui témoigna qu'elle entrerait dans sa position, qu'elle simplifierait autant qu'il lui serait possible. Elle commença donc par lui montrer un objet. Ensuite, elle prit des lettres en cuivre qu'elle assembla et lui fit comprendre que ces différents caractères assemblés de cette manière représentaient l'objet. Comparaison qu'elle répétera plusieurs fois. Ensuite, elle lui fit connaître toutes les lettres. Elle donna un signe particulier à chacune d'elles et lui fit distinguer les voyelles à qui elle donna des signes plus particuliers, comme devant seul donner à la force aux mots suivants leur application. Donc là, je passe, ça devient très technique. Mais ce qui est fou, c'est qu'elle arrive aussi à exprimer donc, le passé. Donc, elles emploient un mouvement de la main droite vers la gauche. Pour le présent, par un mouvement de la droite devant soi. Et pour le futur, un signe de la main droite dans le vide. Elles ont ensuite adopté un signe pour mesurer le temps, en employant les deux mains qu'elles rapprochent ou éloignent plus ou moins selon l'espace de temps qu'elles veulent déterminer. Donc, voilà, c'est quand même assez sophistiqué. Et en même temps, je pense que je sais pas si c'était forcément très facilement reproductible, hein, parce que c'était ça demandait que d'abord la jeune élève soit très réceptive et elle devait être effectivement d'une intelligence assez vive, parce que ça devait être assez compliqué quand même de reconstituer comme ça l'orthographe des mots. Et à la fin du dossier, qui est assez important, parce qu'on a une lettre du curé, on a une lettre du maire, on a ce fameux docteur, on a un juge de paix, on a vraiment beaucoup de notables qui témoignent en fait en faveur de Mélanie Hermite. À la fin, il y a même dans le dossier la copie de deux phrases écrites par Rose Sylve, qui sont assez touchantes. Vous allez voir, je vais vous les lire. Un petit papier.
Là, quand elle...
Allez-y, oui.
Quand elle était en extérieur, comment pouvait-elle faire pour communiquer ?
Alors en fait, ce qu'ils expliquent, c'est qu'elle, on l'envoie par exemple faire des courses à l'épicerie et elle demande une plume. Et elle écrit et elle montre. Elle montre ce qu'elle veut et elle écrit. Parce que du coup, elle arrive à... Elle est arrivée quand même à un degré qu'elle arrive à former des phrases et à se faire comprendre de quelqu'un par l'écrit.
Ça n'allait que dans un sens.
Tout à fait. Oui, oui. Et puis, je pense que la communication réelle n'était possible en fait qu'avec son institutrice, compte tenu qu'en plus le procédé était quand même assez, assez compliqué. Voilà, j'essaie juste de retrouver mes phrases.
Et il y a eu plus près de nous, il y a des procédés avec des couleurs, non, il n'y avait pas une incidence par rapport à ça.
Écoutez, là, franchement, moi, j'en suis restée pour l'instant à Mélanie Hermite. C'est vrai que ce serait assez intéressant de resituer ça dans le contexte, justement, de tous les procédés qui ont pu être mis en place pour enseigner à des personnes en situation de handicap, que ce soit la vue, l'ouïe. Ou la parole, je ne l'ai pas fait encore ce travail, hein, mais c'est vrai que ça serait vraiment intéressant. Puis là, en l'occurrence, à ma connaissance, ce n'est pas un système qui a perduré et qui a connu une postérité, hein, c'est vraiment resté un cas unique. Voilà, alors donc, de la main de Rose Sylve, on a ces deux phrases qui sont très significatives. « Je vois Dieu partout. Ô mon Dieu, je vous offre mon âme, mon corps et tout ce que je ferai et souffrirai aujourd'hui, mon Dieu. » Je vous prie de me donner les grâces qui me sont nécessaires pour mettre en pratique les résolutions que vous m'avez fait prendre. Voilà, on est vraiment dans la prose moralisante et très, très croyante du début 19e. Et après, la seconde phrase est très touchante. Elle écrit « J'aime ma maîtresse de tout mon cœur. Je veux aller là-bas pour manger des cerises. Je languis de voir mon petit frère. » Parce qu'en fait, c'est la petite dernière d'une famille nombreuse. Et avec un père, son père était journalier de mémoire, et donc une famille très indigente. Et comme elle est hébergée chez la famille Hermite, évidemment, elle est séparée de sa fratrie et de ses parents. Voilà. Donc, j'ai trouvé cette phrase très, très touchante.
De sa famille, c'était la seule qui était atteinte de...
Oui, a priori, oui. Oui, c'était la seule. C'est après ce que j'ai trouvé vraiment intéressant au-delà de l'anecdote et puis du côté un petit peu curieux du procédé, c'est que vraiment en filigrane, on voit vraiment l'état de misère dans laquelle vivaient les gens à cette époque dans ce département très rural. Déjà, il y a la personne évidemment de Rose Sylve, famille de journaliers. Donc le journaliste est celui qui travaillait à la tâche, hein, qui travaillait à la journée et qui ne travaillait pas forcément tous les jours. Des familles effectivement très nombreuses, donc beaucoup de difficultés pour subvenir aux besoins, un climat pas toujours facile. Donc il y a déjà sa situation à elle. Et puis, au-delà d'elle, il y a Mélanie Hermite. Elle a 26 ans, elle est d'une santé fragile, elle vit toujours chez son père. Visiblement, on ne parle pas de mariage. Or, pour une femme à cette époque, c'était le seul moyen de sortir de chez... Enfin, de quitter sa maison. On voit bien dans ce qui est dit que son travail, eh bien, c'est de tenir la maison. On ne parle jamais de la mère, donc on suppose que le père est veuf. Donc travaux domestiques. Enfin, voilà, on dessine vraiment un paysage et une situation de la vie des gens qui n'est pas, forcément rêvée aujourd'hui. Hein. Donc c'est vrai, quand on dit toujours aujourd'hui, oh, avant c'était mieux. Bon, regardons un peu dans les archives et on arrêtera peut-être un peu de se plaindre de notre quotidien. C'est vraiment des vies toutes tracées, d'où il est difficile de s'échapper, de prendre des chemins de traverse, ou alors ça demande vraiment un caractère très particulier. Et là, en l'occurrence, Mélanie Hermite, on a un peu l'impression qu'elle a voulu évidemment faire œuvre de bonne chrétienne. Ça, c'est évident que derrière, il y a vraiment la tradition de la charité envers les plus pauvres, mais peut-être aussi que ça divertit son quotidien, hein, qui ne devait pas être très très joyeux. Donc c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant, et quand on se plonge dans la lecture des grands auteurs du 19e, on trouve des fois des personnages, et on se dit... Oh, c'est caricatural. Mais non, c'est pas caricatural du tout. Hein. On a une de nos collègues qui est en train de trier les archives de la sous-préfecture de Castellane, du 19e. Et elle voit donc de nombreux courriers qui ont été envoyés au sous-préfet. Et c'est terrible. Hein. Il y a des histoires absolument abracadabrantes de vraiment où derrière on voit l'alcoolisme, la misère, la malnutrition. Enfin, elle disait, c'était des fois, elle hésite entre rire ou pleurer parce que c'est vraiment douloureux, comme ce qui transparaît des archives. Et vous imaginez bien que les mots n'ont pas forcément le même pouvoir évocateur que des images. Et déjà là, on voit déjà tout ce qu'il y a derrière.
Là, vous disiez le reflet dans les romans, c'est le reflet de la société. De toute manière, les écrivains qui regardaient, n'avaient qu'à regarder autour d'eux, malheureusement. Vous allez dans les campagnes pour les citadins pour voir exactement ce qui se passait.
Tout à fait. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait tenter de se dire que c'est la prose du 19e qui en rajoute. Vous voyez bien, la façon de l'écrire est quand même très lyrique, très emphatique. On a perdu un petit peu l'habitude de ce genre d'écriture. Hein. On est quand même dans un dossier administratif, là. Hein. Aujourd'hui, ça serait bien si on avait des lettres administratives aussi bien écrites. Aussi lyrique. Malheureusement, c'est plus le cas. Mais il y avait quand même un genre littéraire et un goût de la lettre, de l'art épistolaire qui est perdu aujourd'hui. Mais non, effectivement, comme vous dites, il y a une réalité qui est bien là et qui est vraiment terrible, je pense.
Malgré le fait qu'en milieu rural, il y a plus, entre guillemets, de facilité de se nourrir par rapport aux champs.
Ben oui, mais vous savez, quand vous avez l'âge, le Sylve, je ne sais plus, à un moment donné, il décrit, je sais plus s'il a 8 ou 10 enfants, enfin, journalier, je pense que la femme, elle s'occupe des enfants, ou éventuellement du petit potager, c'est impossible, enfin, même si, puis vous voyez bien, même aujourd'hui, faire un petit potager, c'est pas forcément facile d'arriver à faire pousser ce qu'il faut simplement pour notre agrément. Alors quand il faut vraiment nourrir une famille, on passe un cap difficile.
Quoi. Et puis le climat de Seine en hiver. Et
exactement. C'est pas d'où d'ailleurs une migration saisonnière qui fait que les gens aient quitté en hiver ces zones-là pour essayer de trouver de l'argent un peu plus bas dans la vallée. Hein.
C'était quelle date exactement,
1825. Alors, en réalité, Mélanie Hermite a enseigné à Rossive à partir de 1823 et elle a reçu le prix en 1825. Voilà. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais bien arriver à lire, c'est qu'en cherchant un peu des informations sur Mélanie Hermite, le fameux prix Montyon, là, ce prix de vertu de l'Institut de France, j'ai vu qu'il y avait une revue satirique très célèbre au 19e qui s'appelait Le Rire, qui a évoqué ce prix. Il faut savoir que les prix de vertu ont été très raillés au 19e siècle par ceux qui voulaient s'affranchir de la morale chrétienne. Et donc à chaque fois qu'un prix de vertu était décerné, il y avait des journaux satiriques pour évidemment gloser sur la vertu. Voilà. Mais malheureusement, je n'ai pas eu l'accès à cette archive-là. Il faudrait qu'on arrive à acheter ou à se faire prêter ce numéro du Rire. Hein. Donc il y avait d'autres journaux satiriques, hein, l'Assiette au beurre, voilà, on en connaît bien d'autres. Hein. Mais je n'ai pas eu l'occasion de lire cet article. Ça m'aurait plu parce qu'ils évoquent vraiment le cas de Mélanie Hermite et de ce prix.
Et c'est plus ou moins facile de trouver, de mettre la main sur ce type d'ouvrage.
Ah, il faut les acheter ou alors éventuellement voir s'il y a un établissement, une bibliothèque en possède la collection. Et voilà, il faut chercher. J'ai pas pris le temps encore de creuser la question, mais ça doit être possible quand même. Mais ça serait intéressant de mettre cette pièce-là au dossier Mélanie Hermite, de voir un peu l'écho qu'il y a eu de ce prix-là. Et peut-être que je me trompe tout à fait et que l'article n'est pas du tout railleur et que c'est juste... ça m'étonnerait, mais bon, il faut vérifier.
Et au niveau des visites, recevait-elle des ses amis qui venaient la voir, qui essayaient de communiquer avec elle?
Ça, on a dans le dossier, en l'état actuel, on n'a aucune autre information que vraiment ce dossier qui est presque un dossier administratif de témoignages qui, d'abord, un, s'assure que Rossilve est vraiment sourde et muette. Donc il y a quelqu'un qui fait un test pour voir que vraiment c'est pas tout ça n'est pas une escroquerie. Et puis deux, attester des réels progrès en matière de lecture et d'écriture de la jeune fille. Et trois, que c'est bien Mélanie Hermite qui a apporté ces progrès-là. Après, de la vie, la seule chose qu'on sait, c'est que elle est envoyée faire quelques courses. Voilà, mais de sa vie sociale, j'ai essayé même de savoir, j'ai pas réussi à retrouver, j'ai pas pris plus de temps que ça non plus, mais j'aurais voulu savoir à quel âge elle était décédée, voilà, qu'est-ce qui était devenu d'elle après être sortie des mains de Mélanie Hermite. Voilà, bon, j'ai pas mené l'enquête plus loin pour l'instant, mais ça serait intéressant parce qu'on devrait pouvoir trouver dans l'état civil alors ce qui est clair, c'est que j'ai pas trouvé de Rossilve au niveau de l'état civil de Seine. Voilà, donc après elle est peut-être née ailleurs, comme son père était journalier. Voilà, ça il faut chercher un petit peu et on devrait arriver à compléter le tableau.
Et puis si elle s'est mariée, elle a changé de nom, donc c'est encore plus compliqué.
Voilà. Oui, mais après, dans l'état civil, on trouvera la mention de son mariage. Et voilà. Après, la réalité, c'est de regarder déjà pour... Je pense que pour les femmes, c'était, la vie n'était pas... C'est un peu une caricature de dire ça, mais la vie n'était pas très facile. Une femme en situation de handicap, je ne sais pas si elle pouvait se marier si facilement que ça. Et voilà, c'est... Ce serait intéressant de voir hein, ce qu'elle a pu devenir. Hein.
Et des pièces en cuivre, il y a des traces?
Non.
Tout a disparu.
Ouais. Enfin, à ma connaissance, oui. Hein, peut-être que les descendants de Rossil vont conserver, ou Mélanie Hermite, ouais, ça serait intéressant. Je lance un appel à témoins.
Du côté de Seine.
Voilà, du côté de Seine. Si des gens nous écoutent et connaissent un petit peu cette histoire, ça serait intéressant de voir. Après, le cuivre a une telle valeur aujourd'hui que je crains malheureusement que si du cuivre, tout un alphabet en cuivre, en plus en cuivre, je sais pas, à mon avis, c'était pas du plaqué, c'était du cuivre brut, il a dû être fondu depuis longtemps.
Hélas. Au niveau des archives départementales, quel est le programme qui arrive?
Alors actuellement, ce qui nous préoccupe, mais dans le bon sens du terme, on est en train de travailler à notre prochaine exposition de l'été, qui sera consacrée au monastère de Ganagobi et plus particulièrement aux mosaïques du monastère, parce que nous avons eu en don les archives de la société qui a restauré la mosaïque dans les années fin 70-80. Sous l'égide de l'administration des monuments historiques. Et donc, il y a... parce qu'il faut savoir que cette mosaïque était connue, et puis on a oublié sa connaissance, son existence, pardon, parce que le monastère était très, très abîmé, et la mosaïque était enfouie sous un amas de terre au 19e. Et puis, on l'a redécouverte. Évidemment, quand on a vu ce magnifique tapis tricolore, parce qu'il y a essentiellement trois couleurs, il a été décidé de la restaurer parce que les tesselles, certaines étaient descellées. Voilà. Et donc ce grand chantier a eu lieu dans les années fin 70-80. C'est une société de restauration basée près de Périgueux qui est intervenue. Et pour cette restauration-là, on a fait quelque chose de très novateur à l'époque. Il n'y a pas eu de restauration in situ, sur place. On a déposé la mosaïque, ce qui a été un travail colossal. Hein. De mémoire, je crois qu'elle fait 17 mètres. Enfin, si on prend les trois absidioles, ça va faire 17 mètres de long. On l'a donc découpée par panneaux décoratifs. Elle a été emmenée dans les ateliers à Périgueux, restaurée là-bas et reposée. Voilà. Donc ça a été un très gros chantier qui a donné lieu à, évidemment, beaucoup de débats sur, déjà, comment la restaurer. Donc le parti a été pris de la dépose. Et après, comment on la restaurer. Et là, c'est vraiment intéressant. Là aussi, hein, c'est comme pour Mélanie Hermite. Il y a le fait brut. Et puis, tout ce qu'on ne dit pas, c'est aussi tous les changements de conception liés à la restauration Aujourd'hui, on n'aurait certainement pas restauré cette mosaïque de la même manière, puisque le parti qu'on a choisi à l'époque, c'est de restituer un petit peu certains motifs, mais on ne sait pas ce qui a été restitué. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez la mosaïque, vous avez l'impression que tout est dans son jus, j'allais dire. Il y a quelques lacunes, puisqu'on n'a quand même pas inventé. Aujourd'hui, un restaurateur, il y aurait une couleur différente. Alors, des gens peuvent être gênés par ça, mais c'est une question d'honnêteté par rapport au public, de dire, voilà, ça, on a juste fait que recoller, nettoyer, et ça, c'est une reconstitution par rapport au puzzle énorme que ça représentait. Et ça, ça n'a pas été fait. Mais ça correspond à une conception de cette époque qui a évolué, comme dans n'importe quel domaine, il y a des évolutions dans la manière de... D'ailleurs, il y a des, voilà, on retrouve la même chose en médecine, dans absolument tous les domaines. Évidemment, un problème ne sera jamais traité de la même manière selon les époques.
Et pour cette restauration, s'il avait fallu, il aurait fallu faire double boulot.
C'est-à-dire ?
S'il avait fallu restaurer d'une certaine façon, et puis d'essayer de garder l'origine.
Non, en fait, ce qui se passe, c'est que ça ne demandait pas forcément plus de travail. C'est juste en termes de restitution visuelle, si vous voulez. Les parties qui sont sur lesquelles les restaurateurs sont vraiment intervenus auraient été d'une couleur différente. Alors, pas les tesselles elles-mêmes, évidemment, mais il y aurait eu... vous savez, comme dans une poterie, on voit ça des fois dans les musées aujourd'hui, on voit quand des poteries ont été... recoller et qu'il y a un morceau qui a été ajouté pour que l'ensemble, et ben, ce morceau-là va être d'une couleur différente. Donc là, on sait qu'il y a une intervention postérieure à la création de l'objet. Donc on aurait trouvé un truc. Alors c'est sûr qu'on aurait sans doute perdu au niveau qualité esthétique. Hein. Voilà. Après, c'est vraiment un monument majeur. Hein. Vraiment les Alpes de Provence peuvent s'enorgueillir d'avoir un tel édifice et un tel pavement de mosaïque. Hein. Moi qui ai fait des études d'histoire de l'art, je connaissais Ganagobi avant de connaître les Alpes de Provence. Hein. C'est vraiment un monument qui est cité très très régulièrement et de manière très élogieuse dans tous les manuels consacrés à l'art roman. Donc c'est vraiment un coup de projecteur mérité.
Et pour faire ces empiècements, les matériaux qui étaient utilisés, ils étaient pris, où c'est qu'ils étaient pris ?
Vous voulez dire les tesselles et le problème c'est qu'on n'a pas on sait qu'il y a on connaît il y a des petits morceaux de marbre mais après l'origine ça va être assez compliqué à déterminer. Ça faisait partie des sujets alors. Pas concernant la mosaïque, mais l'origine des matériaux en matière de monuments historiques est difficile parce que ça demande quand même l'intervention de géologues qui sont pas toujours avec vous quand vous allez visiter un monument ou voir une œuvre. Et je crois qu'on en avait déjà parlé au cours de votre émission, mais lorsque nous avons fait la journée d'études consacrée à la matière et le bâti, et plus précisément sur le matériau pierre, l'origine de cette journée d'études, c'est cette base de données qui est en place, enfin, qui est en cours de construction avec le Bureau de recherche géologique et minière et la Direction régionale des affaires culturelles pour justement donner une origine aux matériaux utilisés dans les constructions. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que les gisements n'existent plus forcément. Donc il faut retrouver des gisements qui ont été exploités, mais souvent pas de manière professionnelle. C'est-à-dire que on savait que là, il y avait une pierre intéressante et qu'on voulait justement construire. Donc on allait prendre ce qu'on voulait, mais ça n'a jamais été vraiment une carrière au sens où on l'entend aujourd'hui. Donc aller retrouver l'endroit, c'est pas forcément évident. Donc là, l'œil du géologue est intéressant parce que lui, il va savoir quelle veine va être dans tel coteau. Donc ça va être important. Et puis il y a des matériaux locaux. Et puis évidemment, pour vraiment des pièces plus décoratives ou des pièces plus prestigieuses, par exemple comme des cheminées, des entablements de cheminées ou des très beaux escaliers, eh bien on va chercher, si on en a les moyens, la pierre plus loin. Donc là, je pense que les fameuses tesselles, c'est pas forcément des matériaux locaux. Hein. Voilà. Après, il faudrait gratter un peu la question. Bon, j'avoue que là, pour l'instant, moi, je ne travaille pas trop sur ce sujet-là. Donc, il faudra questionner M. Labadi la prochaine fois qu'il viendra vous rendre visite.
Et au niveau du bâti, il y a une prochaine exposition ?
Du bâti...
du patrimoine.
Non, alors là, alors on a Ganagobi qui va avoir lieu cet été, qui sera inauguré le 7 juillet. En même temps, mais alors absolument rien d'architectural. On va recevoir les réalisations d'une artiste qui travaille le papier. Voilà, on trouvait ça intéressant par rapport aux archives, le papier. Donc, elle utilise plein de, que ce soit des végétaux, des restes de tissus. Elle travaille des matériaux très incongrus, comme par exemple, elle nous a montré du papier qu'elle avait fait à partir de pelures d'ail. Voilà. Et donc, elle va nous montrer ses réalisations qui sont à cheval entre l'artisanat d'art et un travail plus artistique, parce qu'elle fait aussi des compositions avec ses papiers. Voilà, donc ça va être vraiment les deux expositions qui vont avoir lieu cet été. Ensuite, il y a toujours l'exposition liée à la guerre, hein, 16-17 jusqu'en novembre 17. Et puis après, on passera à la dernière année, l'année de l'armistice 17-18, et on aura clos ce centenaire de la Première Guerre mondiale. Voilà, non, là pour l'instant, en termes de consacré au patrimoine, on n'a pas encore projeté de choses liées au patrimoine du département.
Laure Franek, merci. Histoire d'archives, ça sera le troisième jeudi du mois d'avril. Prochaine émission avec M. Jean-Christophe Labadie et vous-même. Et à très bientôt.
Merci Jean-Marc.